enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Chapitre 26. Et nous allons ensemble étudier, recevoir de Dieu ce qu'il a fait dans la vie de Isaac. J'ai donné comme titre à ce message Isaac, un modèle de prospérité. Je trouve que le personnage de Isaac, il est un peu discret. Il est un peu discret entre Abraham et Jacob. Vous n'avez pas cette impression ? Parce qu'on parle beaucoup d'Abraham, le père de la foi. Et puis on parle beaucoup de Jacob parce que les détails de l'histoire de Jacob sont plus nombreux. Hein. On parle de Jacob, de ses fils, de tout ce qui s'est passé. Et dans notre Bible aussi, il y a des passages de Abraham, ça parle de Genèse 12 jusqu'à Genèse 25, 26 à peu près. Et puis il y a ensuite les passages de Genèse 25, 26 où Jacob commence. Jusqu'à la fin de Genèse, pratiquement, avec Joseph. Mais Isaac, là-dedans, qu'est-ce qu'il est ? Il est plus discret, mais ça ne veut pas dire qu'il est insignifiant. Et on va voir plusieurs choses qui vont vraiment vous bénir et vous encourager, de voir que, eh bien, ce n'est pas parce qu'on a Abraham comme père qu'automatiquement il y a un héritage, comme nous savons que ce n'est pas parce que les parents marchent avec Dieu qu'automatiquement ça se transmet aux enfants. Et ce n'est pas parce que quelqu'un héritait d'une bénédiction qu'automatiquement elle se transmet. Mais que chacun d'entre nous, dans n'importe quel domaine, nous avons besoin de faire nos propres expériences. Je reprends un petit peu l'introduction. Dans 1 Corinthiens 10, 6, il nous est dit « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu de gens qui ont vraiment vécu. Ce ne sont pas des contes, ce ne sont pas des fables, ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas de la théorie dans ce sens de quelque chose qui est abstrait, mais c'est quelque chose qui a été vécu, qui a été expérimenté, qui est éprouvé, éprouvé au point que Dieu l'a mis dans sa parole. Il a dit ça, ça vaut parole de Dieu pour nous. Et donc, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, veut dire qu'il y a une importance pour nous et une richesse dans l'étude des personnages bibliques. Et j'aimerais dire encore combien c'est important à la fois de découvrir ce que les personnages bibliques ont pu expérimenter avec Dieu, mais de ne pas non plus entièrement s'identifier à un personnage. Je disais, le seul personnage auquel vous pouvez vous identifier et vouloir lui ressembler, c'est Jésus. Et même, il y a une petite limite, c'est qu'il y a une œuvre que Jésus a faite qu'aucun d'entre nous ne va jamais faire. Nous ne serons jamais Dieu à la place de Dieu. Nous n'allons jamais sauver quelqu'un au sens que Jésus l'a fait. Mais dans beaucoup de choses, nous devons lui ressembler et nous identifier à lui. Maintenant, il y a beaucoup de personnages dans la Bible, on appelle ça des types de Christ. Ils ressemblent à Christ dans certains domaines. Et par là, ils préparaient le terrain pour que quand Jésus-Christ paraîtrait, eh bien, alors on a par exemple Joseph. C'est un modèle de Christ parce qu'il a pris une place de sauveur pour sa famille à un moment donné. Il a été trahi, il a été livré et ensuite il a été élevé. D'abord abaissé, puis élevé. Donc ça, c'est des illustrations. Mais donc, 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire, corriger, instruire dans la justice, convaincre, oui, je les ai dit un peu dans le désordre, mais vous le retrouverez dans 2 Timothée 3,16. Et donc j'ai dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et Romains 4, 23, 24 nous dit que ce n'est pas seulement pour Abraham que ces choses ont été écrites, mais c'est pour nous qui avons cru. Pour nous, ces choses ont été répertoriées. À quoi ça servait à Abraham qu'on écrive son histoire quelque part dans un livre ? Sa vie est terminée. Alors, à ce moment-là, nous constatons que le plus important, c'est de voir que nous pouvons aujourd'hui même en tirer des choses pour nous-mêmes, pour notre expérience. Genèse 26. On va commencer au verset 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Moi, j'étais choqué quand j'ai médité, réfléchi sur le fait que Isaac devint riche. Je croyais qu'il était déjà riche. Puisqu'il nous a dit que Abraham, son père, il était tellement riche que ça ne suffisait pas l'endroit où ils étaient pour lui et son neveu Lot. Ils ont dû se séparer tellement ils avaient de choses. Et comme au chapitre d'avant, il nous est dit que Abraham donna tous ses biens à Isaac. Donc, si vous me suivez, hein, si vous êtes d'accord avec ça, on réfléchit, on se dit, mais comment ça se fait? Dans quelle situation était Isaac? Moi, je croyais qu'il avait tout reçu de son père. C'est pour ça que je voulais, au travers de cet enseignement, vous encourager à voir que Isaac a dû faire sa propre expérience avec Dieu. C'est ça qui compte. Il n'a pas vécu sur quelque chose que son père simplement lui a transmis. Et d'ailleurs, je ne dis pas qu'il ne restait plus rien de l'héritage d'Abraham, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je dis premièrement, il n'avait pas de quoi stocker à l'époque. Vous savez, en quoi consistait leur richesse? C'était les troupeaux. Vous vous rappelez de Job, qui était fort riche, d'un instant à l'autre, il a tout perdu. Ce ne sont pas des choses qui demeurent d'une façon permanente. Et il est un fait qu'au chapitre 26, le premier verset, il nous dit « Il y eut une famine dans le pays ». Donc il y a des situations difficiles, où nous avons peut-être passé par là aussi, où ce que nous avions dans le passé ne nous a servi à rien. Parce qu'il y a eu un moment difficile où il ne restait plus rien. Tout a été mangé ou dévoré, si vous préférez. Et toujours est-il que si la Bible nous dit que Isaac devint riche, ça veut dire qu'il est parti d'un stade où il n'avait pas. Hein? C'est la seule chose que je vois, c'est qu'il y a forcément eu dans sa vie un moment où il a, je dis pas repartir à zéro, mais il a dû descendre pour remonter. Et ça, c'est important pour nous de le réaliser. Et quand je pense au conseil du roi David à son fils Salomon, il disait à Salomon, son plus cher désir, sur son lit de mort, il a dit « Connais le Dieu de ton père ». Et nous voyons qu'il y a beaucoup de situations où un homme de Dieu ou une femme de Dieu a connu Dieu personnellement. Mais les autres n'ont pas toujours reçu. Ça n'a pas pu être transmis. Et alors, ça ne fait que des gens qui suivent un homme, mais si cet homme disparaît, eh bien, que reste-t-il de l'attachement à Dieu? Eh bien, là, on peut en tout cas se réjouir de la vie d'Isaac, parce qu'il nous est dit qu'Abraham mourut, et là, nous voyons Isaac être seul, mais nous allons voir qu'il y a plusieurs choses extrêmement encourageantes pour nous. Premièrement, l'Éternel lui parle. C'est bien ça, non? Combien aime entendre Dieu parler? Dieu est vivant, il veut parler, et donc c'est important d'entendre sa voix. Ça, c'est le plus important, d'entendre quand il nous parle. Jésus a dit qu'il y a des sourds qui ne veulent pas entendre, et il ne disait pas sourds dans le sens physique, et des aveugles qui ne veulent pas voir, et il ne disait pas ça des aveugles physiques, mais de ceux qui savaient déjà tout. C'est très grave, surtout par rapport à Dieu, quand on vient à lui sachant déjà tout. Job a fait cette expérience. Il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Dans le sens que je pensais savoir sur Dieu, mais quand je l'ai vraiment rencontré, j'ai vu qu'il était encore bien plus grand, bien autre que j'imaginais. Et ici donc, dans Genèse 26, au verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Des directions précises, conduit par l'Esprit, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et à toutes les nations, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. En fait, toute cette promesse est pour qui? C'était la promesse d'Abraham qui est renouvelée. Voyez, c'est renouvelé. C'est pas seulement, c'était pour Abraham, maintenant il est mort, c'est terminé. Non, il montre par là que c'est renouvelé, que c'est encore d'actualité et que Dieu refait maintenant cette alliance qu'il avait fait avec Abraham, il l'a conclue aussi avec Isaac. Je te bénirai et même, eh bien, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes commandements, mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc, il y a un bénéfice à cause de la marche d'intégrité, de foi d'Abraham, mais tout de même, Isaac doit s'en emparer personnellement. Et on voit que ce n'est pas instantané. Ce n'est pas parce que Dieu a dit quelque chose que tout de suite Isaac saisit, mais que c'est des fois difficile de commencer la marche par la foi et de vraiment rentrer dans les bénédictions de Dieu. Premièrement, ce qui est intéressant, c'est de voir que pratiquement Dieu reconduit Isaac à faire le même cheminement que son père Abraham avait fait. Il se retrouve à Guérar avec le roi Abimélec dans pratiquement la même situation. Abraham avait été là-bas et il avait eu peur que les gens du lieu ne le tuent parce que sa femme était belle et qu'ils ne prennent sa femme. Donc il avait fait une astuce et il avait dit « c'est ma sœur » pour qu'il soit honoré et ne soit pas tué. Et nous voyons que pour Isaac, c'est la même chose. Il a suivi l'exemple d'Abraham. Verset 7, lorsque des gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Et donc, il fait la même expérience. Abimélec voit un moment, il les surprend, Rebecca et Isaac, en train de plaisanter. Et donc on comprend que le sens du mot plaisanter veut dire qu'ils se comportaient l'un par rapport à l'autre. On avait compris que ce n'étaient pas des frères et sœurs, mais que c'était des amoureux. Et à ce moment, il dit, mais certainement c'est ta femme, c'est évident. Et là, on voit qu'à nouveau, il y a la protection de Dieu sur lui, d'une manière surnaturelle. Le roi fait une ordonnance que personne ne touche à cet homme ou à sa femme. Même cheminement que Abraham. Et maintenant, nous sommes dans une situation où Isaac sème dans le pays. Il y a même un titre d'un livre qui dit « semer dans la famine », que même dans une situation extrême, même dans une situation impossible, si vous semez quelque chose de la part de Dieu, il peut prospérer dans n'importe quelle situation, puisque ça vient de Dieu. Et maintenant, il sème dans le pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Et au verset 15, nous lisons « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là, campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Verset 18, « Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père. » Donc là encore, il est obligé de revenir sur les traces d'Abraham et de refaire les expériences, on pourrait dire, d'Abraham, creuser des puits. Il n'a pas pu bénéficier des puits que Abraham avait creusés parce que l'ennemi, qui est représenté là par les Philistins, avait comblé ces puits. Donc même si de temps en temps il y a des avancées spirituelles, nous savons que l'ennemi ne reste pas les bras croisés. Et il va essayer de combler de nouveau les choses que vous aviez faites par le passé. À un moment, vous avez fait une expérience, vous avez expérimenté quelque chose avec Dieu, vous avez une bénédiction, quelle qu'elle soit, mais vous ne savez, et par expérience, vous ne pouvez pas vivre seulement sur les choses du passé. Vous avez besoin que ce puits soit encore accessible et qu'il continue de vous donner de l'eau. Sinon, ça serait tout aussi stupide que de dire « Autrefois, nous avions bu de ce puits, donc ça suffit. » Non, c'est qu'on a besoin d'en boire tous les jours. Mais l'ennemi est venu et donc ils étaient envieux, ils étaient jaloux de la prospérité que Dieu donnait à son peuple et il est venu pour combler de nouveau. Et dès que vous avez quelque chose que Dieu vous donne, vous fait, vous savez que ce n'est pas automatique. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne, dit l'Apocalypse. Et donc nous avons besoin de nous accrocher. Tiens ferme. Combien de fois ça revient dans les épîtres. Tiens fermement. Donc les puits qu'avaient creusés les serviteurs, ils étaient comblés et Isaac a creusé de nouveau les puits d'eau. Isaac et ses serviteurs. Et quelque chose d'intéressant, il nous est dit au verset 18, il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Là encore, suivre les traces d'Abraham, redonner les mêmes noms. Parce que chaque événement était particulier. Et on va le voir dans un instant. Et dans la Bible, les noms des personnes ou les noms des lieux ont une grande importance parce qu'ils sont toujours attachés à un événement. Et le nom n'est pas donné n'importe comment parce qu'il est attaché aussi à tout ce que la personne représente. Ainsi, quand l'ange a dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus, c'était parce que ça veut dire Dieu sauveur. Et c'était pas au hasard. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Il y a là quelque chose déjà dans le caractère d'Isaac qui est important pour nous. C'est que c'est quelqu'un qui a su honorer son père. Honorer ses parents. Et c'est très important, je parle là à des grandes personnes, mais c'est très important qu'on sache nous-mêmes honorer nos parents et communiquer aussi l'honneur aux enfants pour qu'il y ait de l'honneur. Pourquoi de l'honneur? Parce que nous aimons nos enfants et que nous désirons voir leur bien-être. Et vous savez que Éphésiens 6 nous dit que c'est le premier commandement auquel est attachée une promesse. L'autre jour encore, avec nos enfants, on parlait un peu des choses. Il y a une heure de religion à l'école. Alors, il y a une personne qui leur apprend les 10 commandements. Donc, c'est des programmes très classiques. Hein. Alors, j'ai voulu faire un peu un test. Je dis, alors, quels sont-ils? Qu'est-ce que tu en as retenu? Et ce qui ressort, c'est toujours le « tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela ». Mais la Bible nous dit que « honore ton père et ta mère », Éphésiens 6, 2, entre parenthèses, c'est le premier commandement avec une promesse. Avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Quelque chose y est attaché. Le commandement de Dieu, ce n'est pas juste tu feras pas ci ou tu feras pas ça, cela. Mais ici, c'est dans un sens positif. L'honneur communique aussi la bénédiction de Dieu. Soyez très attentifs à ça, de voir est-ce qu'il y a de l'honneur. L'honneur, ça paraît être une valeur désuète, un peu dépassée. Pense à la chevalerie ou quelque chose comme ça. Et vous savez, c'est pas toujours très honorable ce qui se passait de ce temps-là. Et on idéalise des fois. Mais l'honneur est une des qualités spirituelles de Isaac. Il honore son père en donnant les mêmes noms au puits. Il suit la trace de son père. Et nous voyons quelque chose de très intéressant aussi au niveau de sa personnalité. C'est qu'il sait... Il sait aussi se soumettre à son père. Vous savez, quand dans Genèse, c'était dans 22, le sacrifice d'Isaac, il nous est dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit, Abraham, répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc peut-être en mémoire, vous avez toutes sortes d'images, de peintures ou autres qu'on a fait sur Abraham et Isaac. Et des fois, on montre un père et son petit garçon, n'est-ce pas vrai? Mais rien nous dit là dans la Bible qu'il s'agisse là d'un petit garçon, surtout que Abraham lui a chargé de tout le bois qui servirait à l'holocauste. Or, un holocauste, c'est un sacrifice donc consumé, il devait entièrement brûler, et ce n'était pas juste quelques petites branches, le petit bois pour allumer le feu. Il avait là sur ses épaules une charge de bois. Ce n'était pas un petit gamin, un petit enfant qu'on peut prendre par la main. Et si Isaac, au bout d'un moment, avait compris ce que son père voulait faire avec lui, parce qu'il l'a lié, il ne nous est pas dit dans la Bible, il l'a pris par traîtrise, il l'a assommé, il l'a lié, et il s'est laissé lier. Il était soumis à son père. Vous vous rendez compte? Là, il commençait à comprendre, parce qu'il n'était pas bête. Déjà, il a dit, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham lui donne cette réponse extraordinaire. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Il n'avait peut-être pas encore compris ce qui s'était passé, mais il était déjà en train de prophétiser. Et tout cela, encore un type de Christ. Jésus qui s'est laissé lier parce que il a dit, personne ne prend ma vie, moi je la donne. Personne n'a tué Jésus dans le sens qu'ils l'ont piégé, capturé et ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Il a dit, je donne ma vie. Personne ne me la prend. Et de la même façon, Isaac déjà montre là, dans son attitude, quelque chose de soumission à son père qui est remarquable et qui est une, et nous le savons, une des choses importantes pour expérimenter la bénédiction de Dieu. Un esprit rebelle, un esprit indépendant ne pourra pas recevoir de Dieu. Parce que Dieu va le conduire dans des endroits où des fois, sans comprendre, eh bien, on accepte simplement le chemin. Et il nous est dit que quand Abraham a offert son fils, il pensait le retrouver par une sorte de résurrection. Il s'est dit, je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre, mais je sais en tout cas qu'il y a une promesse de Dieu et que je vais d'une façon ou d'une autre ne pas perdre mon fils. Puisque Dieu lui avait dit, au travers de ce fils, eh bien, ta postérité va se multiplier. Donc, voilà la façon dont Isaac est conduit pour prospérer. Et nous savons que la prospérité, c'est beaucoup de choses. C'est à tous égards. Parce qu'un homme qui a beaucoup d'argent sur son compte en banque, mais qui est dans une grave maladie, ou qui se retrouve tout seul, sans personne, eh bien, ce n'est pas la prospérité au sens de la parole de Dieu. Et ici, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il suit les traces de son père jusqu'au moment où commence sa propre aventure. Donc, il est bon de se laisser conduire comme le jeune Isaac, parce qu'il était quand même plus jeune, hein, même si ce n'était pas un enfant. Il est bon pour un temps de se laisser conduire et d'apprendre à se soumettre. Et jusqu'au moment où on est à un point, on dit maintenant, commence mes propres expériences. J'ai aussi besoin de savoir qui je suis maintenant. Pas seulement me définir par rapport à quelqu'un d'autre, mais qui je suis. Et pour ça que c'est tellement important, disons, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. Tu n'es pas forcément ce que les autres disent de toi, mais tu es avant tout ce que Dieu dit de toi. Et maintenant commence sa propre expérience. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore un puits. Et là, on va être plus précis dans le texte, verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Alors là, il y a quelque chose de plus. Vous le comprenez ça? Qu'on peut faire des citernes, on peut permettre à l'eau qui est dans la nappe souterraine de se rassembler à un endroit et que dans le trou, effectivement, il y a de l'eau qui vienne. On peut permettre à des citernes d'accueillir l'eau de la pluie. Et ça, ça a été fait aussi, et c'est des bonnes méthodes, mais nous savons que le meilleur, c'est tout de même l'eau vive. Avoir de l'eau vive, ne pas risquer que ça stagne, croupisse ou autre chose, mais avoir de l'eau vive. Ils ont trouvé de l'eau vive. Mais, vous savez, quand on trouve de l'eau vive, eh ben, c'est pas facile. Verset 20, les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ils ont su, ah là, il y a quelque chose de spécial, quelque chose de qualité. Et ça, encore une fois, cela ne nous est pas toujours donné facilement. Il faut être déterminé, savoir, je veux ça, je veux garder cela. Alors, mais on voit qu'il y a des situations où Isaac n'a pas cherché constamment l'affrontement. Jésus a dit aussi que si quelqu'un veut faire la guerre, il faut qu'il s'assoie d'abord et réfléchisse s'il a de quoi, avec les moyens qu'il a, d'affronter l'armée qui vient vers lui. Et s'il n'a pas les moyens, qu'il envoie une ambassade pour essayer d'avoir la paix. Et si quelqu'un veut bâtir une tour, eh bien qu'il calcule d'abord la dépense pour savoir s'il aura de quoi la terminer. Et la Bible dit aussi, fais la guerre avec prudence. Isaac était, tout homme de Dieu qu'il soit, béni et tout, il n'était que un patriarche avec ses serviteurs, sa tribu, son camp. Il n'avait pas une armée derrière lui. Donc il savait aussi avec prudence se retirer et savoir que même si là il y avait une opposition, Dieu trouverait un autre moyen de le bénir. Donc on comprend qu'avec cette dispute, eh bien il a dû céder des fois du terrain, mais ce n'est pas pour autant qu'il a reculé. Vous voyez ? Des fois ça peut arriver dans notre vie. On a des projets personnels ou d'église. On veut avancer, on sait que c'est la volonté de Dieu d'avancer, mais des fois ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on force le passage, mais qu'on cherche avec la sagesse de Dieu de savoir comment on va faire pour s'y prendre. Un obstacle peut être abattu, mais il peut aussi des fois être contourné, ou on peut passer par-dessus. Et ici, donc, les serviteurs ont à nouveau creusé, et il nous est dit un autre puits au sujet desquels on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna, qui signifie ennemi ou adversaire. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, mot qui signifie largeur. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on réussit pas du premier coup qu'on va laisser tomber. On a des fois, une première fois, ok, on marche sur les traces d'Abraham, notre père, on suit la direction qui nous a été donnée, encouragée, et puis, des fois, il y a des obstacles, et il faut savoir continuer de creuser et de se laisser diriger par Dieu. Et maintenant, il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Maintenant, finalement, il atteint une position où il est à l'aise. C'était pas facile d'arriver jusque-là, mais finalement, il peut dire, maintenant, l'Éternel nous a établis. Il y avait des combats, mais maintenant, l'Éternel nous a établis. Pour nous, nous pouvons prendre beaucoup de ces choses par rapport à des illustrations spirituelles. Pour le bébé en Christ, il est important que pendant un temps, il se laisse conduire par son père spirituel. Nous ne devons pas croire trop facilement que nous savons tout ou que nous pouvons aller de nous-mêmes. Il est bon de se laisser diriger. Et c'est pour ça que c'est bon aussi que le Seigneur nous place quelque part, soyons dans une église locale, soyons en relation les uns avec les autres, sachant nous soumettre mutuellement. Soumettre, ça veut dire, on peut le prendre dans le sens de un projet, on peut soumettre un projet, on utilise ça dans le monde des affaires, ça veut dire on propose, on dit voilà, qu'est-ce que tu en penses, d'avoir aussi un vis-à-vis, quelqu'un qui puisse nous dire si le chemin est le bon. Et quand il est arrivé à ce point, il nous est dit, verset 23, il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je suis le Dieu d'Abraham, mais il dit, je suis aussi avec toi. Et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et verset 25, nous voyons que lui-même est maintenant établi. Qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit là un autel. L'autel, c'est le sacrifice. Et le premier sacrifice que Dieu attend de nous, c'est que nous lui donnions notre propre vie. S'offrir nous-mêmes en retour. Jésus s'est donné pour nous et nous nous donnons aussi à lui. Et nous voyons là, je dirais, si je pouvais schématiser, c'est vraiment la conversion d'Isaac. C'est à ce moment-là qu'on voit clairement qu'il a pris position. Il bâtit un autel, il invoque le nom de l'Éternel, il appelle le nom de l'Éternel. Donc, il prie lui-même, il ne prie plus Dieu d'Abraham, il invoque le nom de l'Éternel et il y dresse sa tente. Ça veut dire qu'il s'installe là où il y a la bénédiction de Dieu. Le lieu du sacrifice et le lieu de la prière. C'est là qu'il fait bon vivre. Ou à l'inverse, on pourrait dire qu'il fait bon vivre dans une maison où les vies sont offertes à Dieu et une maison où l'on prie. Oui ? Et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. À nouveau, ils creusent un puits. Et Abimélec vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de l'armée. Et Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » Au début, ils ont facilement pris le dessus sur le pauvre Isaac qui était obligé de fuir. Je dis pauvre maintenant, bien qu'il soit fort riche, dans le sens qu'il était obligé de partir devant la pression, devant l'armée. Mais maintenant, ceux-là même qu'il avait rejetés, hein, il nous est dit au verset 16, « Va-t'en de chez nous à Isaac, eh bien ceux-là même vont vers lui maintenant. » Et ils disent, « Nous reconnaissons que l'Éternel est avec toi. » Moi, j'ai chacun d'entre nous aussi. À dire que vous avez des fois été rejetés peut-être par des amis, famille ou autres, des gens qui ne vous considèrent pas, n'ont pas accepté votre cheminement avec Dieu, ils n'ont pas aimé certaines choses que vous avez faites pour vous engager avec Dieu. Mais ici, pour moi, c'est une promesse de Dieu que nous pouvons croire aussi que lorsqu'ils verront vraiment que l'Éternel est avec nous, et il y en a qui reviendront et diront, maintenant nous le voyons. Parce qu'il y a toujours un temps entre le fait de croire et le fait de le voir. Il y a un temps qui s'écoule. Et ce temps-là est le plus difficile pour nous. C'est le temps où nous tenons bon. Où nous maintenons les choses que nous faisons pour nous engager envers Dieu. Mais il y a un temps, et croyez-le, il est dit, ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Vous aimeriez aussi que des gens viennent à vous et vous disent ça. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Et non seulement ils reconnaissent que Dieu est avec eux, mais maintenant ils désirent bénéficier de ce que Dieu fait pour Isaac. C'est ça l'alliance. Une alliance, c'est une chose importante. Ça veut dire que je peux bénéficier de ce que l'autre possède. Il voudrait maintenant non plus prendre de force les puits d'Isaac, mais maintenant il voudrait être au bénéfice de la bénédiction parce qu'il voit que l'Éternel est avec lui. Et le fils d'Isaac, Jacob, va faire la même expérience. C'est que Laban, quand il le trompe sans cesse sur son salaire, il voit que l'Éternel est avec Jacob et il essaie de le retenir le plus longtemps possible avec lui parce qu'il voit que quand Jacob est avec lui, eh bien lui en est béni aussi. Et donc que nous ayons aussi cette expérience, que Dieu nous donne d'avoir ça, que des gens recherchent notre présence, recherchent notre contact, veuillent faire alliance avec nous parce qu'ils voient que l'Éternel est avec nous. Faisons alliance. Et maintenant, ça c'est un peu fort de leur part. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité. C'est vrai, ils l'avaient juste chassé, hein. Et il faudrait maintenant qu'ils les remercient encore de ne l'avoir que chassé et qu'ils ne lui ont pas fait plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons là un roi. Nous avons un roi qui vient avec son ami, qui vient avec le chef de son armée et qui demande à Isaac, l'homme de Dieu, de leur jurer de ne pas leur faire de mal. Ça, c'est une perception extraordinaire. Que maintenant la crainte de Dieu s'empare d'eux. Et normalement, un roi avec le chef de son armée et tout ce qu'il y avait derrière n'aurait pas de quoi s'effrayer devant un nomade, même s'il a quelques serviteurs et des richesses. Mais il voit quelque chose de surnaturel dans la vie d'Isaac. C'était pas normal ce qui s'est passé. On fait tout pour le démoraliser, lui prendre tout ce qu'il a, et il tient bon. Il est dans la famine, il sème et il récolte au centuple. Il trouve de l'eau là où on avait tout bouché. Quand on lui prend un puits, ils vont ailleurs. Chaque fois, ils trouvent de nouveau, et encore de l'eau qui est encore meilleure. Et rien ne peut empêcher cet homme de prospérer et d'être béni. Et j'ai parlé de l'humilité d'Isaac, du fait qu'il honorait son père, qui était soumis. Et maintenant, j'aimerais encore dire une autre chose. J'avais parlé de sa vie de prière, hein, qu'il a commencé à invoquer l'Éternel, qui lui est apparu, qui lui a parlé. Et Isaac avait encore un autre trait de caractère, c'est qu'il passait du temps à méditer. Genèse 24, 63, quand Rebecca, donc celle qui allait devenir sa femme, lui est amenée par le serviteur d'Abraham et les chameaux, il nous est dit ce trait de caractère de Isaac. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il était sorti pour méditer. Ça veut dire qu'il avait son temps avec Dieu. Il avait son temps et qu'est-ce qu'il faisait? Il méditait dans les champs. Je me suis demandé pourquoi. Dieu avait dit à Abraham, lorsque tu auras, je traduis, hein, lorsque tu auras des doutes concernant ma promesse, lève les yeux vers les étoiles et tu te rappelleras que je t'ai dit que ta postérité sera aussi grande que les étoiles. Donc Abraham, quand il se demandait est-ce que la promesse va vraiment se réaliser, il se rappelait, oui, il faut lever les yeux. Il voyait cette étoile innombrable et Dieu lui dit, c'est comme ça que sera ta postérité. Eh bien, Isaac, dans quelle situation il était? Eh bien, c'était quelqu'un qui travaillait. Il nous a dit, il travaillait les champs. Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il était en train de méditer quand il était dans les champs? Il était en train de regarder les champs et il était en train de s'attendre à la bénédiction de Dieu. Vous voyez? Ce qu'il a semé n'a pas produit automatiquement, mais il y a rajouté sa foi. Il était en train de méditer sur ses champs et que Dieu allait faire du bien. Et vous aussi, ça doit vous encourager à passer du temps à bénir les projets que vous faites, les projets que vous entreprenez, votre vie professionnelle ou d'autres choses que vous voulez. Prenez du temps pour les voir comme Dieu les voit. Et parler des paroles dessus. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. méditez jour et nuit la parole de Dieu concernant les choses que vous entreprenez. Si nous ne pensez pas que Dieu va faire quelque chose dans ce domaine, comment est-ce que vous allez lui permettre d'intervenir? C'est uniquement quand vous commencez à méditer, comme Isaac l'a fait. C'est un homme qui savait méditer. Apprenons à méditer. Méditer, ça veut dire passer dans notre cœur, repasser encore, encore les promesses, les paroles de Dieu sur telle ou telle situation. Et malgré donc ces temps difficiles qu'il a eu, il a eu la victoire finale. L'Éternel est avec toi. L'Éternel l'a mis au large, l'Éternel lui a donné la paix par rapport à ses ennemis, et l'Éternel l'a établi. Conclusion, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Nous amener dans une position où de combat de la foi ou de moments difficiles, eh bien, nous puissions expérimenter cet élargissement. Un temps où nous sommes établis et nous savons, pas maintenant nous sommes arrivés, mais nous savons une victoire a été remportée. Nous sommes en route pour la suivante, mais une victoire a été remportée. Nous sommes fermes dans un domaine. Vous savez, ça peut arriver que vous soyez affermis dans un des domaines. Moi, il y a des domaines de la vie chrétienne que j'ai tellement étudié et tellement expérimenté qu'il s'est créé un affermissement. Je sais quelle est la volonté de Dieu concernant tel sujet, je connais les promesses de Dieu et le diable ne vient pas facilement dans ce domaine parce que je suis armé. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai d'autres domaines dans lesquels il faut que je travaille encore. Mais voilà la volonté de Dieu nous concernant. 1 Pierre 5, verset 6. On peut commencer au 5 aussi parce qu'il y a cette notion de soumission. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, c'est la puissance au siècle des siècles. Dieu veut vous rendre inébranlable. Il dit, après que vous ayez souffert un peu de temps. Il y a toujours un passage obligé par une souffrance, un moment difficile. Il y a toujours la souffrance avant la gloire. Il y a toujours un moment d'humiliation avant l'élévation. Et Hébreux 12 reprend ceci dans un même sens par rapport au royaume inébranlable cette fois-ci. Hébreux 12, je vais prendre le temps de lire tout ce passage, c'est juste pour arriver au verset final. Hébreux 12, 12, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent à ce qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre ceux qui publiaient les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ? Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais encore le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut, et il l'a annoncé dans sa parole, ébranler. Il veut secouer. Il veut permettre même au diable de nous cribler comme le fourment, comme il l'avait réclamé sur les disciples. Et alors tout le monde sera éprouvé. De toute façon, vous serez éprouvés. Mais être éprouvé parce qu'on veut servir Dieu produit quelque chose de glorieux. Ça veut dire que Dieu nous prépare une voie, une issue, et à la fin, on sera comme l'or qui a passé par le creuset, plus pur et plus tel que Dieu nous veut. Et alors, on sera dans une situation inébranlable. Inébranlable. Ça ne veut pas dire que c'est un point. Je pense que inébranlable, c'est beaucoup d'étapes. Où dans chaque fois, vous pouvez dire, là vraiment, j'ai passé par une expérience, on ne me prendra pas ce que j'ai vécu avec Dieu. Ça, personne ne peut me le reprendre. J'ai fait un pas. J'ai vécu quelque chose, j'ai expérimenté, éprouvé la parole de Dieu et j'ai vu que eh bien, Dieu est fidèle à sa parole. Et c'est ce qu'il veut. Il veut que nous soyons inébranlables. Et les autres choses qui peuvent être ébranlées, eh bien, il est bon qu'elles soient ébranlées. Comme ça, ça enlève tout ce qui est inutile, tout ce qui nous retient. Amen.